Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaborio. Adaptation Henri Wetzmann.
Aujourd'hui, deuxième épisode, des suspects.
Résumé du premier épisode.
Été 1865.
Le braconnier Larry Paille et son fils Philippe ont découvert le cadavre de la comtesse de Trémorel sur les bords de la Seine.
Ils alertent le maire d'Orcival, qui, avec le juge de paix Planta, se rendent d'abord au château du Valfeuillu,
où ils constatent un véritable saccage.
Et sur le chemin qui mène au fleuve, ils ramassent des objets ayant appartenu au comte,
dont on ne retrouve pas le corps.
Interrogeant Larry Paille, le maire se rend compte que celui-ci ment en prétendant avoir vu de son bateau le cadavre de Madame de Trémorel.
Car l'embarcation est restée amarrée à la rive, assez loin de l'endroit où gît le corps de la comtesse. Et d'ailleurs, les rames et les divers instruments de pêche ne sont pas mouillés.
Le maire courtois fait garder Larry Paille et son fils par les gendarmes.
Dans une pièce du château du comte de Trémorel, au Valfeuillu.
Nous vous écoutons, monsieur Planta.
Eh bien, voilà. La comtesse de Trémorel, née Berthe Le Chaillut, fille d'un modeste instituteur de village, était d'une grande beauté.
Ah oui, d'une grande beauté.
Malheureusement pour elle, à 18 ans, elle n'avait pour dot que ses grands yeux bleus, un profil athlétique et d'admirables cheveux blancs. Autour d'Orcival, c'est la pleine campagne où ne passe guère de chevaliers errants. Résignée à coiffer Sainte-Catherine, elle sollicita, sur les conseils de sa famille, une place d'institutrice. C'est à ce moment que l'héritier d'un des plus riches propriétaires du pays demanda sa main. Oui, il s'appelait Clément Sauvresy et venait d'avoir 20 ans. Grosse fortune en bonne terre, absolument libre d'hypothèque.
Vous êtes bien renseigné.
Oh, j'avais eu l'occasion de m'occuper des affaires de son père du temps que j'étais avoué à Melun.
Non, mais excusez-moi.
Donc, le jeune Sauvresy qui avait rencontré Berthe, à Melun précisément, où elle venait une fois par semaine enseigner le solfège à des enfants, s'était épris d'elle. Il l'épousa.
Oui.
Environ un mois avant la noce, il avait mis les ouvriers au Valfeuillu. Et en moins de rien, il y avait dépensé en réparation, ornement et mobilier la bagatelle de 30 000 écus.
Ah, oui, c'est vrai.
Et c'est ce beau domaine que les époux choisirent pour passer leur lune de miel.
Un véritable conte de fées.
Absolument. Finalement, ils s'y trouvèrent si bien qu'ils s'y installèrent définitivement, ne conservant qu'un pied-à-terre à Paris. La jeune Berthe passe ainsi, sans transition, de la petite salle d'école campagnarde où elle secondait parfois son père, au superbe salon du Valfeuillu. Et croyez-moi, lorsqu'elle faisait les honneurs du château à toute l'aristocratie des environs, il semblait que de sa vie, elle n'avait fait autre chose.
C'est bien vrai, mais mon cher ami, c'est bien ce que mes propos ont laissé entendre, et il était inutile...
Non, continuez, oui. Monsieur Plantage.
Sauvresy était aimé lui aussi. C'était un cœur d'or. Un de ces hommes qui croient à l'amitié et à l'amour. Le jeune ménage fut heureux, comme l'a dit mon ami courtois. Oui, on vivait grandement au Valfeuillu, on recevait beaucoup. Et puis, un beau jour, ou plutôt un beau soir, 2 ans après leur mariage, Sauvresy amena de Paris un de ses anciens amis, un camarade de collège, le comte Hector de Trémorel.
Ah, de Trémorel, oui.
Celui-ci devait passer quelques jours au château, mais les semaines s'écoulèrent, puis les mois, il resta. On n'en fut pas surpris. Oui, Hector avait eu une jeunesse plus courageuse et avait jeté à tous les vents une fortune colossale. La vie relativement calme du Valfeuillu ne pouvait que le séduire. D'ailleurs, on pensait que, devenu pauvre, il se souciait fort peu d'aller promener sa ruine au milieu de ceux qu'avait offusqué sa splendeur. Il s'absentait rarement, et seulement pour aller à Corbeil, parfois à pied, quand il faisait beau temps. Là, il descendait à l'hôtel de la Belle Image, où il se rencontrait avec une jeune dame de Paris.
Oui, c'est bien.
Ils passaient l'après-midi ensemble et se séparaient à l'heure du dernier train.
Diable ! Pour un homme qui vit en solitaire, notre cher juge de paix ne manque pas d'informations.
Oh, mais tout Corbeil est au courant de cela. Le comte ne se cachait pas. D'ailleurs, il n'avait pas à se cacher.
Bien entendu, cher docteur.
Est-ce que l'installation du comte Hector au Valfeuillu avait changé quelque chose aux habitudes du château?
Absolument rien. Monsieur et Madame Sauvrosy avaient un frère, voilà tout. Et quand à cette époque, Clément Sauvrosy fit plusieurs voyages à Paris, tout le monde savait que c'était pour s'occuper des affaires de son ami. De cela, j'étais parfaitement au courant.
On peut donc dire que le bonheur semblait à tout jamais fixé sous les ombrages du château. Quand, un soir, au retour d'une chasse au marais, Sauvrosy se sentit indisposé au point de se mettre au lit. Un médecin diagnostiqua une fluxion de poitrine. Mais Sauvrosy était jeune, robuste, et 15 jours plus tard, il était debout. Commit-il une imprudence? Une rechute se produisit dont il se remit au bout d'un mois. Puis, nouvelle rechute. Et la maladie devint interminable.
Hélas!
Jamais malade ne fut soigné avec tant de preuves du plus absolu, du plus pur dévouement.
Ça, c'est vrai! Berthe et Hector se relayaient jour et nuit à son chevet. Il eut des heures de souffrance. Jamais une seconde d'ennui.
Il disait à ses visiteurs qu'il en était arrivé à bénir son mal.
Oh.
Oui, oui. À moi-même, il confia que s'il n'était pas tombé malade, il n'aurait jamais su combien il était aimé.
Ces mêmes paroles, il me les a dites aussi plus de 100 fois. Il les a répétées à Madame Courtois et à Laurence, ma fille aînée.
N'empêche que sans souffrir intensément, le pauvre Sauvrosy s'affaiblissait de plus en plus et n'était plus que l'ombre de lui-même. Enfin, une nuit vers 2 ou 3 heures du matin, il mourut entre les bras de sa femme et de son ami.
Oui, mais jusqu'au dernier moment, il avait conservé la plénitude de ses facultés.
Absolument. Moins d'une heure avant d'expirer, il fit venir tous ses serviteurs et lorsqu'ils furent réunis autour de son lit, il prit la main de sa femme, la plaça dans la main du comte et leur fit jurer de s'épouser lorsqu'il ne serait plus.
Cela s'est su bien vite et le pays en était bouleversé.
Dans le préambule de son testament, dicté la veille de sa mort à Maître Bury, notaire à Orcival, Sauvrosy dit formellement que l'union de sa femme et de son ami est son vœu le plus cher, sachant bien que son souvenir serait ainsi pieusement gardé.
Le couple n'avait pas d'enfant.
Oh non, monsieur.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'après les obsèques, la jeune veuve s'enferma. Monsieur de Trémorel paraissait désespéré. Et lorsqu'ils reparurent l'un et l'autre, ils étaient bien changés.
Ah oui.
Hector surtout. Il avait vieilli de 10 ans.
Savez-vous, monsieur le juge de paix, si les rendez-vous à l'hôtel de la Belle Image avaient cessé?
Oh, je le présume. Je le crois.
Et moi, j'en suis sûr. J'ai appris par ouï-dire, mais tout ceci à Corbeil, qu'une bruyante explication avait éclaté entre monsieur de Trémorel et la jolie dame de Paris. Alors, à la suite de cette scène, on ne les a plus revus à la Belle Image.
Bon, Melun n'est pas au bout du monde et il y a des hôtels à Melun. Avec un bon cheval, on évite à Fontainebleau et même à Paris. Et M. de Trémorel avait dans ses écuries des trotteurs de premier ordre.
Je comprends. Enfin, néanmoins, le comte a épousé la veuve Sauvresi.
Juste un an après sa mort. Tous les détails que nous a rapportés mon ami le juge de paix sont on ne peut plus précis. Mais je me demande si cela fait faire un pas de plus à la grave question qui nous occupe. Trouver les meurtriers du comte et de la comtesse.
Ces détails m'étaient indispensables, monsieur Courtois. Bon. Ces rendez-vous dans un hôtel me frappent. Et on ne sait jamais à quelles extrémités la jalousie peut conduire une femme. Maintenant que je connais les époux Trémorel, arrivons aux faits actuels. Il ne me reste plus qu'à savoir comment vivait le nouveau couple.
Oh, parfaite intelligence, monsieur le juge. Nul dans ma commune ne le sait mieux que moi, qui était de leur intimité. Le souvenir de Sauvresi était entre eux un lien de bonheur. Jamais un nuage, jamais un mot. Hector, oui, je l'appelais ainsi familièrement, avait pour sa femme des soins empressés, des prévenances exquises.
Et la comtesse?
Berthe. Oui, elle me permettait de la nommer paternellement ainsi. Berthe. Ah, je n'ai pas craint de la citer en exemple et modèle à Madame Courtois. Elle était bien digne des deux hommes, eux-mêmes parmi les plus dignes qui soient. Excusez-moi, messieurs, de parler avec tant de... disons, de ferveur, mais j'ai mes raisons. Et je ne redoute point de m'exprimer comme je le fais devant des hommes dont la profession, et encore plus le caractère, me garantissent la discrétion.
Évidemment, monsieur, vous comprenez fort bien, Courtois.
Sauvresi m'a rendu un grand service quand j'eus la main forcée pour prendre la mairie d'Orcival. Quant à Hector, je le croyais si bien revenu des erreurs de sa jeunesse que j'avais songé à un mariage avec ma propre fille, mon aînée Laurence, à qui je donne une dot assez considérable pour redorer n'importe quel blason. Seuls les événements ont modifié mes projets.
Eh bien, me voilà fixé. Et qu'est-ce que c'est?
Je devine. On vient sans doute de retrouver le cadavre du comte de Trémorel. Le
croyez?
Mais c'est Gaspard, le jardinier! Poussez-le donc s'il ne veut pas entrer!
J'ai rien fait!
Mais qu'est-ce que c'est?
J'ai rien fait!
Regardez, qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai rien. Eh bien voilà! Quelques domestiques du château et des habitations voisines péroraient devant la grille lorsque tout à coup, on a aperçu Gaspard au bout du chemin. Il arrivait, la démarche chancelante, et chantait à tue-tête comme un homme ivre.
Ce serait donc le vin qui nous l'aurait livré.
Deux domestiques se sont précipités à sa rencontre et l'ont empoigné.
Allez-y doucement.
Il était tellement saoul qu'il croyait qu'on voulait lui faire une farce. Mais la vue de mes hommes l'a dégrisé. Une des femmes a crié « C'est toi qui as assassiné le comte et la comtesse ?» Aussitôt, il a pâli et il est resté immobile, comme assommé. Puis subitement, il s'est mis à se débattre si vigoureusement que, sans moi, il s'échappait.
Et il n'a rien dit?
Pas un mot, monsieur. Il avait les dents serrées par la rage. Je l'ai fouillé. Et voici ce que j'ai trouvé dans ses poches.
C'est pas vrai. Pour moi.
Doucement, je vous prie.
Un mouchoir. Une serpette.
Serpette?
Oui, deux petites clés. Un chiffon de papier, couvert de chiffres et de signes, avec l'adresse du magasin des forges de Vulcain. Parfait. Ce n'est pas tout. Pendant qu'on le tirait dans la cour, il a essayé de se débarrasser de son porte-monnaie. J'ai vu le coup à temps.
Ouais.
J'ai ramassé le porte-monnaie tombé dans le massif de fleurs près de la porte. Il y a dedans un billet de 100 francs, 3 louis et 7 francs de monnaie. Or, hier, le brigand n'avait pas le sou.
Comment savez-vous cela?
Il avait emprunté à François, le valet de chambre, qui me l'a dit, 25 francs, soi-disant pour payer son écho à la noce.
Qu'on fasse venir François.
Je me sens...
Il est à la porte, je vais l'appeler.
Et pas moi, et pas moi.
Allons. François, hé, François, viens tout de suite, on te demande.
Messieurs, savez-vous si Gaspin avait de l'argent hier?
Il en avait si peu, monsieur, qu'il m'a demandé 25 francs dans la journée.
en me disant que si je ne lui prêtais pas, il ne pourrait pas venir à la noce, n'ayant même pas de quoi payer le chemin de fer.
Mais il pouvait avoir des économies. Un billet de 100 francs, par exemple, qu'il lui répugnait de changer.
Non, Gaspin n'est pas un homme à avoir des économies. Les femmes et les cartes lui ont toujours tout mangé. Non, tenez, pas plus tard qu'hier. Le patron du café du commerce est venu lui faire une scène pour ce qu'il doit. Et il a même menacé de s'adresser à Monsieur le Comte. Je vous dis cela, mais ce n'est pas que j'en veuille à Gaspin. Au contraire, il a sa façon de vivre, mais ce n'est pas un mauvais garçon. Peut-être un peu fier, vu son éducation.
C'est bien, merci. Merci. Vous pouvez vous retirer.
Merci, monsieur.
Oh mon Dieu! Oh Dieu!
L'innocence et l'impossibilité de la démontrer.
Vous dites quelque chose, monsieur Plantin?
Non. Non. Rien.
Vous vous sentez mieux, Gaspin?
Je voudrais boire.
Oui.
Qu'on lui apporte un verre d'eau. Gaspin.
Tenez, Gaspin.
Êtes-vous en état de me répondre?
Oui.
Oui. Bien. Vous êtes au fait des événements de cette nuit. Le comte et la comtesse de Trémorel ont été assassinés. Partis hier avec tous les gens du château, vous les avez quittés à la gare de Lyon vers 9 heures. Vous arrivez maintenant seul. Où avez-vous passé la nuit? Vous vous taisez. Bien. Autre chose. Hier, vous étiez sans argent. Le fait est notoire. Un de vos camarades vient de le confirmer. Aujourd'hui, on trouve dans votre porte-monnaie une somme de 167 francs. Où avez-vous pris cet argent? Ce n'est pas tout. Qu'est-ce que cette adresse d'un magasin de quincaillerie qui a été trouvée sur vous?
Je suis innocent!
Je ne vous ai point encore accusé. Vous saviez que le comte avait reçu dans la journée une somme importante.
Oui. Je sais bien que tout est contre moi.
Enfin, voyons, répondez. Où avez-vous passé la nuit? D'où vous vient cet argent? Et qu'est-ce que c'est que cette adresse?
Mais je vous le dirai que vous ne me croyez pas. Des hommes comme vous tous, vous ne pouvez pas me croire. Moi, un homme comme moi. Ah oui, j'ai un passé, n'est-ce pas? Des antécédents, comme vous dites. Le passé. On n'a que ce mot à vous jeter à la face. Comme si du passé dépendait l'avenir. Eh ben oui, c'est vrai. Oui, je suis un joueur, un ivrogne, un paresseux. Et après? C'est vrai, j'ai été condamné pour tapage nocturne, étant sous comme une grippe. Qu'est-ce que ça prouve? J'ai perdu ma vie. Mais à qui ai-je fait du tort, sinon à moi-même? Mon passé. Mon passé. Je crois l'avoir assez durement expié.
Vous ne répondez pas à mes questions. Cependant, ce que vous dites m'intéresse. Continuez.
Je n'ai pas toujours servi chez les autres. Mon père était à l'aise. Presque riche. Il avait la réputation d'être un habile horticulteur près de Saumur où il avait de vastes jardins. J'ai reçu une bonne instruction de base et à 16 ans, je suis entré chez messieurs le roi d'Angers afin d'y apprendre mon métier. Au bout de 4 ans, on me regardait moi aussi comme un bon horticulteur. Malheureusement, mon père, veuf depuis plusieurs années, mourut en me laissant pour 100 000 francs au moins de terres excellentes. Je l'ai vendu pour 60 000 francs au comptant. Et je vins à Paris. J'étais comme fou en ce temps-là. Je ne songeais qu'au plaisir, qu'à faire la fête, me figurant que mes 60 000 francs dureraient éternellement. C'était quand même le bon temps. Bref, mes 60 000 francs durèrent 8 ans. Puis je me suis retrouvé sans le sou. Alors j'empruntais pour boire. Puis je laissais les ardoises. Une nuit, j'ai été ramassé sur la voie publique, débraillé et faisant du tapage. J'en fus quitte pour 3 mois.
Eh bien, vous trouverez mon dossier à la préfecture. Et qu'est-ce qu'il vous dira, mon dossier? Mais il vous dira qu'en sortant de prison, je suis tombé dans la misère. Ah, mais non, dans la misère honteuse. Celle qu'on fabrique soi-même en se saoulant. Celle qui traîne à la porte des balles publiques de barrière. Celle qui grouille dans les garnis. Mais il vous dira tout ça, mon dossier. Et puis aussi que j'ai vécu parmi les sauteurs, les filous et les prostituées.
Dire qu'on est tous les jours exposé à introduire de tels individus dans sa maison.
Les repentis ne sont pas les plus mauvais.
Mais il y a tout de même une chose que mon dossier ne vous dira pas, monsieur le juge. C'est que dégoûté de moi-même, de cette vie abjecte, jusqu'à penser au suicide, ben j'ai essayé de m'en sortir. Annonce à mon dossier, il vous le dira. Il vous le dira pas, ça, mon dossier. Rien de mes tentatives désespérées, de mon repentir, de mes rechutes. Cependant, j'ai fini par reprendre mon état. Je suis habile. On m'a donné de l'ouvrage. Alors j'ai occupé successivement 4 places. Jusqu'au jour où, par un de mes anciens patrons, j'ai pu entrer ici. Je m'y trouvais bien. Bon, je mangeais toujours ma paye d'avance, c'est vrai. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Demandez partout si jamais on a eu à se plaindre de moi.
Nous reviendrons en temps et lieu sur votre confession. Il s'agit, pour le moment, de donner l'emploi de votre nuit et d'expliquer la provenance de l'argent trouvé en votre possession.
Mais que voulez-vous que je vous dise ? Et je vous répète, vous ne le croiriez pas. Autant me taire. C'est la fatalité.
Je vous préviens dans votre intérêt, Guespin, que si vous persistez à ne pas répondre, les charges qui pèsent sur vous sont telles que je vais être forcé de vous faire arrêter comme prévenu d'assassinat sur la personne du comte et de la comtesse de Trémorel.
Mais je vous jure que je suis innocent.
Mais alors, parlez!
Vous le voulez. Ah, et puis non! Non, je peux pas, non. Un seul homme pourrait me sauver. C'est monsieur le comte. Et il est mort. Je suis innocent, et cependant, si on ne trouve pas les coupables, ben, je suis perdu. Et tout est contre moi, je le sens bien. Oh, puis, maintenant, faites ce que vous voulez. Je prononcerai plus un mot.
Vous réfléchirez. Seulement, lorsque vous aurez réfléchi, je n'aurai plus en vos paroles la confiance que j'aurai en ce moment si vous parliez. Il se peut que vous n'ayez eu à ce crime qu'une part indirecte. En ce cas...
Mais ni indirecte, ni directe. De ne pouvoir se défendre quand on sait innocent.
Puisqu'il en est ainsi, il doit vous être indifférent d'être mis en présence du corps de Madame de Trémorel.
Elle est plus heureuse que moi. Elle est morte. Et moi qui ne suis pas coupable, on m'accuse de l'avoir tuée.
Voyons, Guespin, si d'une manière quelconque vous avez eu connaissance de ce crime, je vous en conjure une dernière fois, dites-le-moi. Si vous connaissez les meurtriers, nommez-les-moi. Tâchez de mériter quelque indulgence par votre franchise et votre repentir.
Et par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je suis innocent. Et pourtant, je vois bien que si on ne trouve pas les coupables, c'en est fait de moi.
C'est bien. Brigadier, enfermez cet homme dans une chambre et qu'on ne le perde pas de vue. Et faites venir la ripaille et son fils.
Mais vous sort.
Il attend! Il attend!
Enfin, on commence à y voir un peu plus clair.
Ah bon?
Ce Guespin qui clame son innocence et qui refuse de parler. J'ai déjà vu ça, j'ai l'habitude. Non, voyez-vous, messieurs, le difficile dans une affaire apparemment embrouillée comme celle-là, le point capital est de saisir le maître bout de fil, celui qui commande les chevaux, et qui doit mener à la vérité à travers le dédale des ruses, des réticences, des mensonges. Et je crois bien tenir ce fil précieux avec Guespin. Par lui, j'aurai les autres. La prison délie les langues.
Ou les paralyse. Je ne suis pas aussi sûr que vous de la culpabilité de Guespin.
Ah, je me demande ce qui peut vous en faire douter.
Oh, disons peut-être comme une intuition, mais surtout par raisonnement. Les charges qui pèsent sur lui sont évidentes, tout concourt à l'accusé, à commencer par lui-même. Et c'est cela qui me trouble. Un coupable qui se tait se défend mal. Beaucoup plus mal qu'un coupable qui parle, même s'il ment. Quant à l'innocent qui se tait, lui, il s'accuse toujours. Seulement voilà, n'y a-t-il pas des impératifs qui l'empêchent de parler?
Cher monsieur Planta, on voit que vous avez l'habitude d'examiner des affaires qui, la plupart du temps, trouvent leur solution dans l'accommodement, le bon sens. Il faut une optique bien différente pour instruire un procès criminel. Croyez-moi, je devine où le bas blesse notre homme. Et s'il n'est pas l'assassin, il est plus ou moins complice. Et même involontaire, la complicité n'en existe pas moins. Il finira par parler. Bon, maintenant, interrogeons ce Jean Berthaud, dit la Ripaille, que dans votre rapport, monsieur le maire, vous dites être un drôle fort mal noté dans votre commune.
Effectivement, c'est un maraudeur, un braconnier, un chapardeur qui a plus d'une fois tenté de la prison.
Fort bien. Eh bien, nous allons donc voir ce qu'il a dans le ventre.
Monsieur le juge. Monsieur le juge, ce sont les deux hommes...
C'est bien, c'est bien, qu'ils approchent.
Ben, me voilà, monsieur mon juge. C'est dit que vous auriez quelque chose à me reprocher.
C'est dit que vous auriez quelque chose à nous reprocher, monsieur le juge.
Et toi, Philippe?
Ce que le juge lui reprochera, le troisième épisode vous le dira.
C'était d'après l'œuvre d'Émile Gaboriau, adaptée par Henri Wetzmann.
Le deuxième épisode du crime d'Orcival.
Avec Jacques Briland, Jacques Jardy, Serge Grand, Raoul Quillet, Léon Lessac, Jacques Maire, Fred Persson, Mario Santini, Christian Zanetti.
Bruitage, Dominique Aubert, chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique Claude Niort, assistant de production Didier Lagarde. Réalisation Jeanne Rollin-Weiss.
Première diffusion sur France Culture le 14 août 1984. Prochain épisode... Bonjour, monsieur Lecoq. D'ici là, vous pourrez télécharger ces deux premiers épisodes sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.